Bonjour Roland Gillet.
Bonjour.
Bienvenue professeur d'économie financière à Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez conseillé pas mal d'autorités publiques et privées. Je vous demanderai d'ailleurs votre avis sur le phénomène d'indexation des salaires sur l'inflation, car la Belgique est un exemple où il y a une automaticité. Les salaires suivent mécaniquement l'inflation. Comme ça fait quelques mois, on peut tirer un bilan. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission. Vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination, mondiale. L'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, aux collections Alpha. J'ai plein d'auditeurs qui se demandent si vous êtes devenu républicain depuis qu'on a vu votre nom dans un shadow cabinet piloté par Éric Ciotti. C'était un papier du Figaro qui avait publier ça.
Absolument.
Qu'est-ce que les gens qui se posent des questions doivent retirer comme conclusion ?
Je suis un universitaire libre d'esprit et par ailleurs, j'ai accepté la proposition d'aider les Républicains à réfléchir à un programme économique et social pour le redressement du pays. Voilà, il y a beaucoup de... Vous savez, 90% des universitaires aident plutôt le Parti Socialiste ou d'autres partis de gauche. Donc, en s'affichant ou pas, là, donc, effectivement, j'aide les Républicains.
Il est très fréquent de voir, effectivement, des universitaires intervenir aux côtés des hommes politiques pour élaborer les propositions, notamment économiques. Quelquefois, d'ailleurs, certains ont considérablement changé d'avis par rapport à l'époque où ils avaient décidé d'intervenir auprès de tel ou tel candidat. Et j'en reçois ici qui n'ont plus exactement les mêmes postures que celles qu'ils ont pu avoir par le passé. Xavier Thimbault, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE. Ça y est, le pic d'inflation est atteint, Xavier.
C'est exact.
Hein, on est d'accord là-dessus. Il n'y a plus de discussion.
Il n'y a plus de discussion.
C'est certain, si Xavier.
L'inflation, d'abord, on est là pour discuter, premièrement, Nicolas. Donc, oui. Si on commence par il n'y a plus de discussion, vont être déçus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est quand même sur un sujet où il faut toujours faire preuve d'un tout petit peu d'humilité.
Je crois, oui. C'est comme les prix du pétrole.
Il se passe beaucoup de choses, il peut se passer beaucoup de choses. Le conflit avec la Russie est loin d'être terminé. Et donc, il peut se passer énormément de choses, imprévues. Après, si on regarde effectivement la dynamique des prix, et puis toutes les inerties qui existent dans cette dynamique, et inerties qui sont liées au fait qu'il y a des chaînes de valeur avec tout un ensemble de contrats, de stocks, de répercussions en cascade, qui font que ça s'étale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement, depuis maintenant plusieurs mois, une baisse très significative des prix de l'énergie.
C'est 2% au rythme annuel, là. Les prix de l'énergie. Dans l'indice.
Dans l'indice des prix.
L'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui a été
à la consommation.
L'énergie ne connaît une inflation que de 2%.
Alors qu'elle
a connu une inflation à 28%.
Et on attend même, pour certains produits énergétiques, des baisses de prix.
Oui,
alors, il y a là aussi de l'inertie. Par exemple, les prix du gaz, il y a eu une manipulation, une augmentation raisonnée sur le tarif régulé qui induit que les prix à la consommation pour, par exemple, les prix du gaz sont à peu près programmés pour l'année 2023 et donc qu'il n'y aura pas de baisse de prix de ce côté-là. Mais il y a quand même des baisses de prix de l'énergie pour certains industriels qui vont pouvoir retransmettre ça dans leurs produits, par exemple la logistique ou tous les gens qui utilisent de l'énergie pour refroidir.
C'est bien l'objectif de Bruno Le Maire, qui voudrait que les prix des industriels reculent dans la mesure où le coût des intrants a considérablement baissé.
Exactement.
Prix de l'énergie.
Il y a aussi des baisses très nettes dans certains produits alimentaires, en particulier les céréales, plutôt les produits alimentaires végétaux. Il y a toujours des hausses sur le côté protéines animales. Donc là, il ne faut pas attendre de miracles dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Mais il va quand même y avoir aussi un petit impact malgré tout, parce que la baisse du prix des céréales, ça va se transmettre dans des produits qui ont beaucoup augmenté, les pâtes, le riz, etc.
Le pain.
Voilà. Le pain. Donc oui, c'est de ce point de vue-là, les facteurs qui poussaient l'inflation
D'accord.
à la hausse, qui étaient la hausse des prix alimentaires et énergétiques, se sont largement atténués depuis plusieurs mois de façon aujourd'hui persistante. Et donc oui, on peut dire que de ce point de vue-là, on a passé le pic de l'inflation et ça se voit dans les prix à la consommation.
Roland Gillet, votre lecture de ce chiffre de l'inflation, alors vous pouvez l'élargir, mais dans tous les pays d'Europe en fait, on constate la même chose. Et alors attention, inflation qui ralentit ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire qu'ils augmentent moins vite.
Tout à fait.
Toujours le rappeler. Parce que là, il y a eu des engagements politiques sur des baisses de prix visibles au mois de septembre. C'est dangereux de prendre ce type d'engagement.
Nicolas, juste tout petit point, c'est pas tellement que les prix ralentissent, c'est surtout qu'au dernier mois de mesure, au mois de mai, on constate, en France en tout cas, une stabilité des prix.
Oui.
Donc ce qui est quand même mieux que des prix qui augmentent moins vite. Alors après, on a les hausses passées des 12 derniers mois qui font que le glissement, lui, continue d'être positif. Mais sur le dernier mois, on a quand même cette excellente nouvelle qui est la stabilité des prix.
Oui, allez-y, Roland Gillet, et puis je demanderai à Christian Saint-Etienne comment il voit la stratégie de menace fiscale de Bruno Le Maire.
Mais d'abord, sur les prix, d'un pays à l'autre, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on voit quand même...
Oui, mais les tendances globales...
Oui, exactement, on est dans la même logique. Un pays quand même comme la Belgique, qui lui a une indexation complète, et je répète, une indexation complète non pas des salaires jusqu'à un certain niveau, mais de tous les salaires pour la totalité de l'inflation. Vous avez eu une augmentation l'année dernière de 11,6% de tous les salaires. Là, vous avez un effet d'inflation de second type, c'est-à-dire que les prix n'augmentent pas nécessairement parce que les inputs qui rentrent montent, mais parce que les entreprises qui ont payé une telle augmentation se disent que les gens qui les ont reçus ont du pouvoir d'achat pour pouvoir payer.
Vous me décrivez donc le phénomène d'indexation des salaires automatiques.
C'est-à-dire que si vous voulez, si c'est 3-4% et qu'on l'avait éventuellement capé jusqu'à des revenus d'un certain niveau pour compenser justement le pouvoir d'achat où ça fait très mal. Mais quand c'est pour tout le monde, vous avez ces effets. Et alors, vous êtes dans une logique qui pourrait devenir une vraiment très mauvaise évolution prix-salaire où l'un entraîne l'autre et puis l'autre a un effet encore de troisième tour.
Vous l'avez observé en Belgique, ce phénomène de second tour pas encore.
Mais regardez, un phénomène, par exemple, si on prend le prix des œufs, qui est quand même pas... Je veux bien que la productivité des poules françaises doit être nécessairement meilleure,
oui,
mais je n'en suis pas certain. Et donc, je vois quand même que l'augmentation des prix est de 15% en France et dans pas mal de pays. En Belgique, c'est 30%. Donc,
30%.
Il y a cette idée quand même que on peut se permettre, et puis surtout ça fait mal aux entreprises, hein, donc c'est pas seulement elles veulent se permettre, les marges après une augmentation, surtout celles qui utilisent beaucoup de travail, avec une augmentation de 11,6% pour tout le monde, depuis le PDG jusqu'au travailleur, je vais dire le moins qualifié, ça fait effectivement mal, et donc elles essayent de répercuter au maximum. Donc vous avez ces effets qui jouent. Et vous avez un autre pays comme l'Espagne, Madrid, où là ils ont fait plus ou moins la moitié du chemin, mais uniquement pour les bas salaires surtout, ben, vous voyez que ces effets sont nettement moins forts pour ce qui est du deuxième tour.
Donc en fait, vous décrivez parfaitement ce qui se produit s'il y avait une indexation des salaires sur l'inflation, ce qui a été souhaité à l'occasion de ce retour de l'inflation qui était devenu le fantôme de l'économie. On a eu tout récemment une grande tribune d'Henri Guénaud dans le Figaro pour nous expliquer tout le bien qu'il pensait du retour de l'indexation.
Mais juste une dernière phrase, l'idée de départ me paraît tout à fait, et en Belgique je trouve que...
Mais l'idée de départ, on la conçoit très
bien.
Oui,
mais c'est l'effet quand on le donne à tout le monde. Et là, on effectivement, et je ne parle même pas de la compétitivité des entreprises, parce qu'il faut voir les effets courts sur l'inflation et puis les effets à long terme sur la compétitivité des entreprises belges. Beaucoup d'entreprises pour le moment savent qu'elles vont avoir un fort désavantage compétitif qui va avoir lieu les prochaines années.
La SNCF a annoncé d'ailleurs qu'elle n'accorderait pas de nouvelles hausses de salaire après 12% d'augmentation en l'espace de 2 ans, mais qu'il y aurait des quantités de gestes susceptibles d'améliorer le pouvoir d'achat des cheminots. Il n'y a pas de débat là sur l'histoire de l'indexation des salaires sur l'inflation, où certains considèrent que ça devrait être remis comme un sujet méritant...
Sur ce point,
Christian Saint-Etienne,
il faut se souvenir qu'à l'automne 2021, on a eu un débat sur ces antennes et dans la profession des économistes sur la question de la boucle prix-salaire.
Oui, on a
donc
énormément.
À ce moment-là, bon, moi, parmi d'autres, j'avais pris position pour des réponses ciblées afin d'éviter le retour de la boucle prix-salaire, qui est catastrophique quand vous êtes dans un système de change fixe, puisque nous sommes en change fixe à l'intérieur de la zone euro. Donc c'est ce que le gouvernement français a fait, c'est pas parce que je l'ai dit, mais il y avait un accord général sur ce point. Donc il y a eu des aides pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie et l'augmentation des prix des céréales aussi à l'époque. Donc il y a eu des aides spécifiques qui ont été versées. A posteriori, je continue de penser que c'était la bonne approche. Alors, néanmoins, c'était la bonne approche à court terme. Il faut se poser la question sur le long terme. C'est-à-dire, l'idée de départ, il y a un peu moins de 2 ans, c'était que ces hausses étaient transitoires. Donc,
c'était la grande idée de départ, oui.
Voilà, mais c'est très important de le rappeler. Et donc, face à des hausses qu'on pouvait penser transitoires il y a 20 mois, c'était tout à fait adapté de faire des aides spécifiques plutôt que d'enclencher la boucle prix-salaire.
On n'allait pas ancrer des hausses de salaire sur une inflation qui était de très courte durée. C'était
après, ce qui est advenu, c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui a changé la donne sur le plan structurel, c'est-à-dire qu'on peut penser que ça va avoir des effets de moyen long terme compte tenu des sanctions qui ont été prises contre la Russie sur ses exportations de gaz qui jouent un rôle clé dans la formation des prix industriels en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Donc à ce moment-là, il y a eu des interrogations d'ailleurs, et c'est là où on a commencé à avoir des augmentations de salaire, d'autant plus qu'en France, on n'a pas de boucle prix-salaire, et on s'est battu sur ça, mais il y a une indexation du SMIC.
Du salaire minimum.
Donc,
un petit effet d'entraînement sur les salaires les plus proches.
Voilà. Et contrairement à la Belgique, en revanche, les salaires au-dessus de 3 fois le SMIC n'ont pas du tout suivi. Alors, il faut se rappeler que dans une analyse structurelle, la formation des prix pour un pays comme la France, qui est terriblement désindustrialisé, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est une question stratégique. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut servir d'élément de réindustrialisation? De facto, on a eu une hausse de prix depuis 18 mois, qui est inférieure à celle de la Belgique et de l'Allemagne. Donc, ça peut donner un petit élément de compétitivité aux entreprises, sous réserve qu'on ait une politique sur l'énergie qui soit cohérente, parce que un des inputs clés pour l'industrie, c'est bien sûr les prix de l'énergie. Donc, vous voyez que c'est, ce que je voulais dire, c'est que c'est une question extrêmement complexe. On a bien réagi, je pense, il y a 18 mois, 20 mois. Il fallait mettre en place une politique de compensation ciblée. Ensuite, le SMIC, au fond, paradoxalement, l'indexation du SMIC a permis d'éviter une explosion de la cocotte minute sur le plan du marché du travail. Maintenant, on est bien content qu'il y ait un ralentissement de l'inflation. Alors, ce que je crains, et je termine par là, c'est que on n'a pas. C'est la politique de l'OPEP. Puisque l'OPEP a goûté à la manipulation des prix du pétrole en jouant sur les quantités produites.
Ils annoncent qu'ils vont baisser la production encore.
Donc, s'ils baissent la production, on pourrait avoir une moindre réduction de l'inflation que ce que nous espérons.
Quelqu'un voulait dire quelque chose?
Juste un point sur par exemple.
Faites des réponses un peu plus courtes, oui, s'il vous plaît, parce que là...
Juste sur le plan du pétrole, je veux dire qu'on s'est tellement bien organisé en Europe pour leur montrer à quel point, contrairement à ce que vous voulez bien dire, parce qu'on produit de l'électricité encore en moyenne avec 80% de carboné, on leur a tellement bien montré à quel point on s'était trompé ou on n'avait pas voulu dire la vérité sur notre dépendance au pétrole en disant, vous savez, vous allez pouvoir le garder, je parle avant la crise en Ukraine, on n'en aura plus besoin, on leur a montré à quel point on en était dépendant, on ne peut pas leur en vouloir maintenant de dire, attention, production égale si jamais il y a un léger ralentissement d'activité, les prix vont baisser, sauf si nous, on se permet aussi de baisser ce qu'on a en cours de rare, c'est-à-dire notre matière première.
Ce qui est assez frappant, c'est que les dernières décisions de l'OPEP pour baisser la production n'ont pas eu tant d'effet que ça sur le prix du baril, parce qu'il y a quand même toute la production et l'exportation venant des États-Unis qui fait que la toute-puissance de l'OPEP...
Il y a un élément aussi qui nous arrange bien, c'est l'évolution du dollar. Parce que, clairement, on a été aidé par le dollar. Maintenant, ça va un peu moins bien. Faut voir aussi les choses. Le dollar remonte un petit peu, mais les deux effets nous ont bien arrangés sur le volet inflation, sur les produits carbonés.
Xavier Tabot, comment vous réagissez à la position de Bruno Le Maire qui veut tordre le bras des distributeurs sur l'inflation? Il leur dit, vous reprenez des négociations, vous avez les prix de l'énergie qui ont baissé, les prix des matières premières qui ont baissé, des prix sortis d'usine, des coûts de production qui ont baissé, faut les répercuter sur les prix au détail pour les particuliers, pour les consommateurs. Vous reprenez des discussions, sinon je taxe. Moi, je pense que la taxe n'est pas possible.
Alors, deux choses. Bon, d'abord, Bruno Le Maire est plutôt dans son rôle qui est quand même de montrer ou d'essayer de montrer que le gouvernement fait des choses sur un sujet qui préoccupe énormément les Français et que, par ailleurs, comment dire, il utilise une vieille astuce qui est de désigner un coupable. Dans une situation où il n'y a pas forcément de coupable et qui est complexe.
Là, on parle de 70 multinationales.
Mais c'est toujours bien d'avoir un coupable pour se dire, voilà, si ça ne va pas aussi bien que ce que ça pourrait aller, c'est à cause de eux. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un petit fond de vérité, parce que la structure des contrats, des approvisionnements, fait qu'il y a une inertie dans les prix. Alors, évidemment, quand les prix montent, celui qui est en bout de chaîne n'est pas très avantagé par les contrats. Il est plutôt avantagé par les contrats quand il est en bout de chaîne, donc le consommateur, parce que les prix sont plutôt stables et que c'est ceux qui sont en début de chaîne qui prennent les conséquences des prix, des inputs qui augmentent. Mais par contre, quand les prix finissent par se calmer, c'est le contraire. Donc c'est celui qui est en début de chaîne.
Mais on a toujours tendance à dire que généralement ça monte par l'ascenseur et ça descend par l'escalier.
Oui, c'est un peu ça.
Donc on désigne des coupables. C'est très clair. Là, les coupables sont parfois.
Il y a quand même cet effet de dynamique qui lui est réel et donc on peut vouloir inciter celui qui est en bout de chaîne à abandonner un petit peu de son avantage lié au contrat qu'il a. Et là, faire des menaces, ça peut aider. c'est pas forcément il y a le problème de crédibilité de la menace, de sa mise en œuvre, de ses délais de mise en œuvre. Je vous rappelle qu'on vit quand même dans un état de droit, donc c'est quand même compliqué de faire des choses qui sont purement autoritaires, et donc on est quand même obligé de respecter un cadre.
Concrètement, Xavier, on peut pas aller taxer 70 entreprises.
Non,
on faudrait taxer toute une filière. Donc, il faudrait déterminer au-delà de quel chiffre d'affaires.
On peut quand même faire peur à une filière en lui disant, même si on va pas le faire tout de suite, on va mettre en place. On va mettre en place des outils qui un jour finiront par vous tomber dessus. Et vous croyez pas à notre menace, mais nous on est tenace et on finira par y arriver. Je suis pas sûr que ça soit très efficace. Non. C'est de très bonnes guerres dans la situation où on est. Ça permet aussi de faire un peu patienter tout le monde en disant ça va arriver et c'est bloqué par les coupables qu'on a désignés.
Enfin, c'est une vraie question. Juste en une seconde, parce que le prix de la baguette de tradition à Paris est passé de 1,20 à 1,40 au moment de la hausse du prix du blé.
Ça s'est vu parfois, oui.
Pourquoi elle ne redescend pas à 1,30 au minimum ?
On a rarement vu le pain redescendre.
Il
y a des prix qu'ils ont atteints.
Le prix du blé monte et il ne redescend pas quand le prix du blé baisse. Donc
il y a des prix qui atteignent effectivement des.
Alors le boulanger vous dira, le prix du blé est monté, on n'a pas mis tout le prix du blé dans la baguette.
Ouais, mais enfin.
Et donc on a fait moins de bénéfices, voire des pertes. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr que le prix du blé va redescendre de façon durable. Et donc oui, on baisse pas notre prix de baguette parce qu'on n'a pas envie de le remonter ensuite. Et de toute façon, on a des marges.
De baguette baissée.
Oui, mais vous avez cet effet dissymétrique même sur les salaires. Sur les salaires, je veux dire, c'est ça aussi.
Vous ancrez une hausse de salaire,
Elle reste. Si un jour ça ralentit. Donc clairement, il faut bien savoir ce qu'on fait. Et comme vous l'avez très bien rappelé, par rapport à la compétitivité d'un pays, le nôtre, je suis au moins d'accord de reconnaître qu'il est beaucoup plus petit que le vôtre. Il est fort ouvert. On est un des meilleurs exportateurs, j'entends, par rapport au PIB. Se mettre soi-même avec 11,6 de hausse de salaire sur la totalité de la masse salariale, c'est sûr que pour certaines entreprises, ça fait déjà mal tout de suite, ça c'est clair. Parce que ceux-là ne peuvent pas répercuter sur le pouvoir d'achat des gens uniquement en Belgique. Ceux qui sont en autarcie peut-être, mais les autres allaient dire « moi j'ai 11,6, je vais les répercuter pour une vente en France ou en Allemagne ou en Espagne, ça n'ira certainement pas, sauf à être plus concurrentiel. »
Il y a des endroits, il y a des seuils psychologiques qu'on ne peut pas dépasser. On a 1:30 avant de marquer une pause. Considérez-vous, compte tenu de ce qu'on a dit sur l'inflation, qu'il est temps pour la Banque Centrale Européenne de faire une pause ? Roland Gillet.
Ah, personnellement.
Beaucoup considèrent qu'il est grand temps de faire une pause, car on a à peine commencé à voir les effets de la plus forte hausse de taux de l'histoire de la BCE.
Mais le tout est quand même de savoir on se retrouve aujourd'hui. Avant, on avait une inflation très faible, ou en tous les cas 1,5%, et des taux d'intérêt négatifs.
Oui.
Donc on avait un écart, faisons simple, moins 1,5% sur l'Allemagne de taux d'intérêt, 1%. Donc ça fait 2,5% d'écart avant de commencer à compenser l'inflation. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5-6, on va dire, de core inflation, ou d'inflation, je vais dire, qui est vraiment celle qui ne vient pas de l'énergie.
L'inflation, c'est tout
ça. Voilà, et on se retrouve avec 2,5%. On a un écart encore plus grand. Donc, pour le moment, sur le différentiel, on n'y est pas sur les taux longs, certainement pas. Et donc, clairement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'inflation anticipée qui est le plus important par l'inflation constatée actuellement. Mmh. Donc, clairement, je comprends Christine Lagarde, comme je comprends aussi la politique américaine, mais c'est un peu différente parce que les coûts liés à l'énergie, notamment, ne sont pas du tout les mêmes, et l'implication que ça a, et la productivité, et le haut de cycle où sont les Américains par rapport au nôtre. Mais tant qu'on n'aura pas, pour que la Banque centrale reste crédible, avoir circonscrit le problème de l'inflation par rapport au taux réel auquel on se retrouve, ça va être très difficile de vente. On est crédible parce qu'on anticipe un ralentissement qu'on ne veut pas voir et qu'on veut encore que la Banque centrale joue le rôle